Vous avez donc des cachots sur les remparts, reprit Petit-Jean. C'est une chose assez rare. Vous êtes dans l'erreur, sœur étranger. En Angleterre, ils s'en trouvent dans plusieurs châteaux. À quel endroit sont-ils situés? Aux angles? Le plus souvent, mais ils ne sont pas tous habitables. Par exemple, celui dans lequel est enfermé le jeune garçon dont je vous parle et qui se trouve à l'ouest est assez bien. Il est possible d'y vivre sans souffrir. Tenez, ajouta Geoffroy, vous pouvez apercevoir d'ici l'endroit où il est situé. Regardez auprès de cette barbacane. Y êtes-vous? Oui. Eh bien, il y a au-dessus une ouverture assez large pour laisser pénétrer l'air et la lumière, au-dessous une porte basse. Je le vois. Et ce garçon à cheveux rouges est là-dedans? Oui, pour son malheur. Pauvre diable, c'est triste, n'est-il pas vrai, maître Geoffroy? Très triste, sœur étranger. Et quand on pense, reprit Petit-Jean, de l'air d'un homme qui fait une simple réflexion, qu'il se trouve là, entre quatre murs, derrière une porte barrée, un jeune homme vigoureux et bien portant, qui, après tout, n'a pas fait grand mal, et qui, sans doute, épuise ses forces dans de vains efforts. Il est gardé à vue par des sentinelles. Non, il est tout seul. Et s'il avait des amis, il lui serait très facile de s'évader. Le verrou de la porte est en dehors. Il n'y aurait qu'à tirer, et crac, la porte roulerait sur ses gonds. Seulement, il serait impossible de traverser le rempart du côté de l'ouest. Pourquoi cela? Parce qu'il est à tout instant parcouru par les soldats, tandis que le côté de l'est, étant abandonné, serait un chemin sûr. Il n'y a pas de gardien? Non, cette partie du château est complètement vide. On l'a dit hantée par des esprits, de sorte qu'un sentiment de terreur en éloigne tout le monde. Ma foi, dit Petit-Jean, je n'engagerai pas le prisonnier à tenter les hasards d'un sauvetage aussi incertain. Car, une fois hors du cachot, comment s'y prendre pour s'évader au-delà des murs d'une pareille forteresse? Une personne étrangère, et qui évidemment ignore les passages secrets, serait arrêté avant d'avoir fait 10 pas. Mais moi, par exemple, si je cherchais à fuir, je me dirigerais à l'aide des remparts vers une chambre inhabitée dont la fenêtre s'ouvre au-dessus des fossés. Tout près de cette fenêtre, à la longueur du bras, se trouve un vieil arc-boutan. Il pourrait servir de marchepied. De là, on descendrait sur une pièce de bois qui surnage au-dessus de l'eau. Ce pont volant a dû servir, je n'en doute pas, aux hommes du baron, alors qu'ils rentraient au château après l'heure du couvre-feu. Une fois de l'autre côté, il faut nécessairement demander son salut à l'agilité de ses propres jambes. Il faudrait un intelligent ami au pauvre prisonnier, dit Petit-Jean. Oui, mais il n'en a pas. Bon forestier, reprit Geoffroy, permettez-moi de vous laisser seul pendant quelques instants, j'ai des devoirs à remplir. Si vous désirez parcourir le château, vous en avez la permission, et si par hasard on vous interroge, donnez le mot de passe qui est « Volontiers et honnêtement, on saura que vous êtes un ami. » Je vous remercie, maître Geoffroy, dit Petit-Jean avec reconnaissance. Bientôt, tu auras à me remercier mieux encore, chien saxon, grommela Geoffroy en sortant de la chambre. En vérité, ce paysan me prend pour un de ses pareils. Je suis normand, un véritable normand, et je vais lui donner la preuve que Geoffroy le Fort n'est pas impunément battu. Ah, maudit forestier, tu as fait plier devant toi un homme qui n'a jamais senti sur ses épaules le bâton d'un adversaire. Tu te repentiras de ton impudence, sois tranquille. Ha, ha, ha! S'écria Geoffroy au milieu d'un bruyant éclat de rire. Tu es pris au piège, mon robuste forestier. Tu es venu bien certainement pour sauver tes amis, car ce sont des coquins de ton espèce qui ont attaqué les croisés. Bien, bien, tu feras un voyage au service de Sa Majesté si mon couteau ne t'atteint pas au cœur. Comme il a lestement mordu à l'hameçon, je gagerai ma vie que je le trouverai tout à l'heure sur le rempart de l'Est. Ce sera l'occasion de lui payer d'un seul coup tout ce que je lui dois. » Tout en grommelant ainsi, Geoffroy songeait à se faire un mérite de sa vigilance auprès du baron et en même temps à se venger de Petit-Jean. Resté seul, notre ami Jean se prit à réfléchir. Ce Geoffroy est peut-être un homme, se disait le neveu de Sir Guy. Il peut avoir de bonnes intentions. Mais je ne crois ni à son honnêteté, ni à sa bienveillance. Il n'est pas donné à un personnage aussi infime d'avoir la grandeur d'âme de pardonner, mieux encore de ressentir un sentiment d'intérêt pour un adversaire triomphant. Donc, Geoffroy me trompe, je suis évidemment pris dans un filet. Il faut en sortir et veiller au salut de William. Petit-Jean sortit de la chambre et sans autre guide que le hasard, il se dirigea vers une large galerie dont l'extrémité devait probablement le conduire à l'est des remparts. Après avoir parcouru pendant une bonne demi-heure une enfilade de couloirs et de passages complètement déserts, il se trouva en face d'une porte. Petit-Jean l'ouvrit et aperçut un vieillard, le front penché au-dessus d'un coffre-fort dans lequel il entassait avec soin de petites sacoches remplies de pièces d'or. Absorbé dans les calculs de son opération, il ne s'aperçut pas de l'insolite présence du forestier. Petit-Jean se demandait en lui-même quelle réponse il devait faire à l'inévitable question du vieillard, lorsque celui-ci, levant la tête, aperçut devant lui son gigantesque visiteur. Une expression de visible épouvante se peignit sur ses traits. Il laissa tomber un des sacs, et l'or, se heurtant contre le plancher, rendit un son qui fit trembler son propriétaire. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix tremblante. « J'avais donné l'ordre d'interdire l'entrée de mes appartements. Que me voulez-vous ? » ?»« Je suis un ami de Geoffroy. Je désirerais me rendre sur le rempart de l'Ouest et je me suis égaré en chemin. » « Ah ah ! » s'écria le vieillard, et un étrange sourire entr'ouvrit ses lèvres. « Vous êtes un ami de Geoffroy le Fort, du brave Geoffroy ? Écoutez-moi, beau forestier, car en vérité, vous êtes le plus beau garçon que j'ai jamais vu de ma vie. Voulez-vous échanger votre habit de paysan contre l'uniforme d'un soldat ? Je suis le baron de Fitzalwin. »« Ah ! Vous êtes le baron de Fitzalwin ? » s'écria Petit-Jean. « Oui, et vous vous féliciterez un jour si vous avez le bon esprit d'accepter ma proposition, d'avoir eu la chance de me rencontrer. »« Quelle proposition ?» demanda Petit-Jean. « Celle d'entrer à mon service. » »« Avant de répondre, permettez-moi de vous adresser quelques questions, » reprit Petit-Jean, tout en allant d'un air fort tranquille fermer à double tour l'entrée de la chambre. « Que faites-vous, beau forestier ?» interrogea le baron, saisi d'une soudaine frayeur. Je préviens les interruptions discrètes, je mets un obstacle à des visites qui pourraient être gênantes, répondit le jeune homme d'un ton parfaitement calme. Un éclair de fureur traversa les petits yeux gris du baron. Voyez-vous ceci ? Demanda le forestier en mettant sous les yeux de sa seigneurie une large bande de peau de cerf. Le vieillard, suffoqué de colère, se contenta de répondre à cette inquiétante demande par un signe affirmatif. « Écoutez-moi avec attention, » reprit le jeune homme. « J'ai une grâce à vous demander, et s'il arrive que, sous un prétexte quelconque, vous refusiez de me l'accorder, je vous pendrai sans miséricorde à la corniche du grand meuble que j'aperçois là-bas. Personne ne viendra à l'appel de vos cris, par la meilleure des raisons, je vous empêcherai de crier. » J'ai des armes, une volonté de fer, un courage égal à ma volonté, et je me sens de force à défendre contre 20 soldats l'entrée de cette chambre. De toute manière, comprenez-le bien, vous êtes un homme mort si vous refusez de m'obéir. Misérable coquin, pensait le baron, je te ferai sûrement rouer de coups si je parviens à échapper à ton infernale domination. Que désirez-vous, brave forestier ? Demanda sa seigneurie d'une voix doucereuse. Je veux la liberté. En ce moment, un pas rapide se fit entendre le long du couloir et un coup violent ébranla le chambranle de la porte. Petit-Jean saisit à sa ceinture un couteau à lame effilée, s'empara du débile vieillard et lui dit à voix basse et d'un ton menaçant : Si vous jetez un cri, si vous dites une parole qui soit dangereuse pour ma sécurité, je vous tue. « Demandez quelle est la personne qui frappe. » Le baron épouvanté obéit prestement. « Qui est là ?»« Monseigneur, c'est moi. » »« Qui, toi, imbécile ?» souffla Petit-Jean. « Qui, toi, imbécile ? Répéta le baron. Geoffroy. Que me voulez-vous, Geoffroy ?
Monseigneur, j'ai à vous annoncer une nouvelle importante.
Quelle nouvelle ?
Je tiens en mon pouvoir le chef des coquins qui ont attaqué les vassaux de votre seigneurie.
Ah, vraiment ? Murmura Petit-Jean d'un ton narquois.
Ah, vraiment ? Murmura le pauvre baron.
Oui, milord, et si votre seigneurie veut bien me le permettre, je lui apprendrai à l'aide de quelle ruse je suis parvenu à m'emparer de ce brigand.
Je suis occupé en ce moment-ci, je ne puis donc vous recevoir. Revenez dans une demi-heure.
Le baron mâcha, pour ainsi dire, les paroles de cette réponse qui lui était soufflée par Petit-Jean.
Dans une demi-heure, il sera trop tard, répondit Geoffroy d'un ton de visible mauvaise humeur.
Obéissez, coquin, allez-vous-en. Je vous le répète encore, je suis très occupé.
Le baron, anéanti de fureur, eut donné avec joie les sacs d'or enfermés dans son coffre-fort pour avoir la possibilité de retenir Geoffroy et de l'appeler à son aide. Malheureusement, ce dernier, forcé d'obéir à l'ordre péremptoire qui venait de lui être donné, s'éloignait aussi rapidement qu'il était venu, et le baron se retrouva seul avec son gigantesque ennemi. Lorsque le bruit de la marche du soldat se fut perdu dans la profondeur des couloirs, Petit-Jean remit son couteau à sa ceinture et dit à Lord Fitz-Halloween
« Maintenant, Sir Baron, je vais vous apprendre ce que je désire. La nuit dernière, un combat a eu lieu dans la forêt de Sherwood entre vos soldats revenant de la Terre Sainte et une compagnie de braves Saxons. Six hommes ont été faits prisonniers. Je veux la liberté de ces six hommes. Je veux encore que personne ne les accompagne ni les suive. Je redoute l'espionnage et je vous l'interdis.
Je consentirai de grand cœur à vous être agréable sur ce point, beau forestier, mais...
Mais vous ne voulez pas.
Écoutez, seigneur baron, je n'ai ni le temps de prêter l'oreille à vos fausses paroles, ni la patience d'en subir la fatigue. Donnez-moi la liberté de ces pauvres garçons ou je ne réponds pas de votre vie, même pour un quart d'heure.
Vous êtes vif, jeune homme. Eh bien, je vais vous obéir. Voici mon sceau. Allez trouver une des sentinelles du rempart, montrez-lui ce cachet et dites-lui que je vous ai accordé la grâce des coquins, des prisonniers. La sentinelle vous enverra auprès de celui qui a la charge de vous protéger et aussitôt on vous ouvrira les portes de la salle où je les tiens enfermés, car ils ne sont point dans les cachots, les vaillants garçons.
Vos paroles me semblent assez sincères, sœur baron, répondit Petit-Jean. Néanmoins, je ne me sens pas d'humeur à y ajouter une grande confiance. Ce cachet, cette sentinelle, ce va-et-vient d'un endroit à l'autre, tout cela me paraît si bien embrouillé qu'il me serait impossible d'en sortir avec honneur. En conséquence, vous allez, de gré ou de force, m'accompagner auprès de l'homme qui a la charge de mes amis. Vous lui donnerez l'ordre de les mettre en liberté, puis vous nous laisserez sortir tranquillement de l'enceinte du château.
Vous doutez de ma parole ? Dit le baron d'un air scandalisé.
Complètement. Et j'ajoute que si, par un mot, par un geste, par un signe, vous tentez de me faire tomber dans un piège, je vous plante à l'instant même et sans crier gare mon couteau dans le cœur. Les menaces de Petit-Jean étaient prononcées d'un ton si ferme, sa figure exprimait une résolution si immuable qu'il n'y avait pas à douter un instant que des paroles au fait, il n'y eut que le geste. Le baron se trouvait dans une situation fort dangereuse, et cela par sa faute. D'habitude, une compagnie d'hommes veillait à sa sécurité, soit auprès de son appartement, soit à portée d'un facile appel. Mais ce jour-là, désireux de rester seul, afin de pouvoir ranger secrètement la prodigieuse quantité d'or entassée dans ses coffres, à cette époque il n'existait pas de banquier, il avait éloigné ses gardes et défendu que, sous aucun prétexte, on se permît de pénétrer auprès de lui. Désespérément convaincu de sa solitude, le baron n'osait enfreindre la défense formelle de Petit-Jean, et, la gorge pleine de clameurs épouvantées, il gardait un profond silence. Lord Fitz-Halloween tenait singulièrement à l'existence, et le désir d'aller rejoindre ses ancêtres ne lui était pas encore venu.
Cependant, il était bien prêt d'accomplir ce triste voyage, car la lutte qu'il allait entreprendre avec Petit Jean était pour lui d'un difficile succès. La liberté promise et si impérieusement exigée des jeunes Saxons était un fait irréalisable par la raison que, aux premières heures du jour, enchaînés les uns aux autres et confiés à la garde d'une vingtaine de soldats, les prisonniers étaient partis pour Londres. Décimés par les guerres désastreuses de la Normandie, l'armée de Henri II était fort appauvrie et quoique le royaume fût en pleine paix, Henri II faisait recruter, autant que cela lui était possible, les jeunes gens d'une santé robuste et d'une taille élevée. Afin de complaire au bon plaisir du roi, les seigneurs suzerains envoyaient à Londres bon nombre de leurs vassaux et Lord Fitzalwin n'était revenu à Nottingham que pour y faire un choix parmi ses hommes d'une troupe digne de prendre rang dans le corps de l'armée. La haute prestance de Petit Jean, sa mine fière et la vigueur herculéenne de toute sa personne avaient soudainement inspiré au baron le désir de l'envoyer à Londres. C'était donc avec cette secrète intention qu'il avait proposé au jeune homme d'entrer à son service et d'endosser la cape militaire. Contraint d'obéir à une nouvelle injonction de Petit Jean, le baron résolut de lui cacher la vérité et de l'amener, sous le prétexte d'une visite aux prisonniers, dans un quartier du château où il serait possible d'obtenir de prompts secours. « Je suis tout disposé à répondre à votre demande, » dit-il en quittant son siège. « Vous avez, je vous l'assure, grandement raison, » repartit le jeune homme, « et si vous désirez remettre à une époque encore lointaine la visite que vous devez à Satan, hâtons-nous de quitter cette chambre. » « Ah, un mot encore !» ajouta Petit Jean. « Dites !» gémit le baron. « Où est votre fille ?»« Ma fille ?» s'exclama Fitzalwin au comble de l'étonnement. « Ma fille ?»« Oui, votre fille, Lady Christabel. » « En vérité, sœur Forestier, vous m'adressez là une étrange question. »« Qu'importe, répondez-y franchement. » « Lady Christabel est en Normandie. » « Dans quelle partie de la Normandie ?»« À Rouen. » « Est-ce bien vrai ?»« Parfaitement vrai. Elle habite un couvent de cette ville. » « Qu'est devenu Alan Clare ?» Le visage du baron s'empourpra d'une subite rougeur, ses dents, pressées sous ses lèvres frémissantes, étouffèrent un cri de rage, et il attacha sur le jeune homme un regard d'indicible colère. Jean, qui dominait de toute sa taille son faible ennemi, répéta lentement sa question. « Qu'est devenu Alan Clare ?»« Je ne sais pas. »« Mensonge !» s'écria Petit Jean. « Mensonge ! Il nous a quittés depuis 6 ans pour suivre Lady Christabel, et je suis certain que vous savez ce qu'est devenu ce malheureux jeune homme. Où est-il ? » ?»«
Je ne le sais pas. »
« Ne l'avez-vous donc pas vu pendant le cours de ces 6 années ?»«
Je l'ai vu, l'obstiné misérable. »«
Pas d'injure, s'il vous plaît, seigneur baron. Où l'avez-vous vu ?»«
La première rencontre qui a eu lieu entre nous, » reprit Lord Fitzalwin d'un ton amer, « s'est passée dans un endroit qui devait être interdit à ce vagabond sans pudeur. Je l'ai trouvé dans l'appartement de ma fille, je l'ai trouvé aux genoux de Lady Christabel. » Le soir même, ma fille entrait dans un couvent. Le lendemain, il eut l'audace de se présenter devant moi et me demander la main de ma fille. Je le fis mettre dehors par mes hommes. Depuis cette époque, je ne l'ai pas revu, mais j'ai appris dernièrement qu'il était entré au service du roi de France.
« De son propre gré ?» demanda Jean.
« Oui, afin de remplir les conditions d'un traité fait entre nous. »
« Quel traité ? À quoi s'est engagé Alan ? Que lui avez-vous promis ? » ?»«
Il s'est engagé à rétablir sa fortune, à rentrer en possession de ses terres, mises sous le séquestre à cause du dévouement de son père pour Thomas Becket. Je lui ai promis la main de ma fille si pendant 7 ans il reste éloigné d'elle et ne cherche pas à la voir. S'il manque à sa parole, je disposerai de Lady Christabel comme bon me semblera. »
Quelle date remonte cet engagement ?
Il existe depuis 3 ans.
C'est bien. Maintenant, occupons-nous des prisonniers. Allons les mettre en liberté.
La poitrine du baron renfermait un véritable volcan. Elle brûlait, Néanmoins, son pâle visage ne révélait rien des sinistres projets qui occupaient son esprit. Avant de suivre Petit-Jean, il ferma à double tour sa précieuse caisse, s'assura qu'il ne laissait aucune trace révélatrice de ses riches trésors, et dit au jeune homme d'un ton bénin « Venez, vaillant Saxon !» Petit-Jean n'était pas homme à suivre aveuglément l'itinéraire que choisirait le baron, et il lui fut facile de s'apercevoir que Lord Fitzhalwin s'engageait dans une direction opposée à celle qu'il fallait prendre pour gagner les remparts. « Sœur baron, dit-il en mettant sa robuste main sur l'épaule du vieillard, vous choisissez un chemin qui nous éloigne de notre but. » « Comment le savez-vous ? » demanda le baron. « Parce que les prisonniers sont enfermés dans les cachots du rempart. »« Qui vous a donné ce renseignement ?»«
Geoffroy. » »«
Ah, le coquin !»«
Oui, c'est un coquin, car non content de me dire dans quelle partie du château se trouvent mes amis, il m'a encore indiqué un moyen pour les faire évader. »
En vérité, s'écria le baron, je n'oublierai pas de lui donner la récompense de ses bons offices. Mais tout en me trahissant, il se jouait de votre crédulité. Les prisonniers ne sont pas dans cette partie du château.
C'est possible, mais je désire m'en assurer en votre compagnie.
Au-dessous de la galerie dans laquelle se trouvaient nos deux personnages, se fit tout à coup entendre le bruit d'une marche qui révélait le pas de plusieurs hommes. Un escalier seulement séparait Lord Fitzhalwin de ce secours providentiel. Aussitôt, profitant de l'inattention du forestier, occupé à se rendre compte de l'endroit où allaient aboutir les profondeurs de cette galerie, il s'élança avec une agilité extraordinaire pour son âge vers la porte dont l'ouverture plongeait sur l'escalier. Arrivé là, et au moment où il allait descendre les marches 4 à 4, il sentit une main de fer se cramponner à son épaule. Le malheureux vieillard jeta un cri strident et se précipita le long des degrés. Impassible et se contentant d'allonger le pas, Petit-Jean suivit le baron, dont la course insensée devenait de minute en minute plus vive et plus rapide. Entraîné par l'espoir de rencontrer du secours, le baron poursuivait follement sa course, jetant des cris, appelant à l'aide. Mais ces cris entrecoupés restaient sans écho et se perdaient dans l'immense solitude des galeries. Enfin, après un quart d'heure de cette fuite étrange, le baron atteignit une porte. Il la repoussa avec une si grande vigueur que les deux battants s'ouvrirent et il alla tomber éperdu dans les bras d'un homme qui s'était élancé au-devant de lui.
« Sauvez-moi, sauvez-moi, au meurtre !» s'écriait le baron. « Saisissez-le, tuez-le !»
Et, en achevant de vociférer ses clameurs furieuses, Lord Fitzhalwin, à bout de force, glissa des mains qui essayaient de le soutenir et tomba de tout son long sur le plancher.
« Arrière !» cria Petit-Jean, qui cherchait à repousser le protecteur du baron. « Arrière !»
« Eh bien, Petit-Jean, dit une voix connue, est-ce que la colère vous aveugle à ce point que vous méconnaissez vos amis ?»
Petit-Jean jeta un cri de surprise.
« Comment, c'est vous, Robin ? Vive Dieu ! Voilà un hasard dont ce traître aura grandement à se féliciter, car sans vous, je le jure, il était arrivé à sa dernière heure.
Qui est donc ce malheureux que vous poursuivez ainsi, mon brave Jean ?»
Le baron Fitzhalwin, souffla Albert à l'oreille de Robin, tout en cherchant à se dissimuler derrière le jeune homme.
Le baron Fitzhalwin, s'écria Robin, je suis vraiment enchanté de cette rencontre. Elle va me permettre de lui adresser quelques questions de la plus haute importance pour des personnes que j'aime.
Vous pouvez vous épargner la peine d'interroger sa seigneurie, répondit Petit-Jean. J'ai appris d'elle tout ce que je désirais savoir. D'abord sur le sort d'Alan Clare, ensuite sur la situation de nos amis. Ils sont enfermés ici et ils me conduisaient à leur cachot afin de les mettre en liberté. Ou, pour mieux dire, le traître faisait semblant de m'y conduire car il a profité d'une minute d'inattention pour chercher à fuir. Le regret de n'avoir pu réussir arracha au baron un gémissement lugubre.
En vous promettant la mise en liberté de nos amis, il vous trompait, mon brave Jean. Les chers garçons s'acheminaient vers Londres tandis que nous déjeunions à l'auberge.
C'est impossible, s'exclama Petit-Jean.
C'est parfaitement vrai, répondit Robin Hood.
Hall vient de l'apprendre et nous étions à votre recherche afin de vous faire sortir de l'antre du lion. » En entendant prononcer le nom d'Albert, le baron releva la tête, jeta un regard furtif vers le jeune homme et, entièrement édifié sur la fidélité de son guide, il reprit sa position de vaincu, grommelant en lui-même mille imprécations contre le pauvre Hall. Le mouvement du baron n'avait pas échappé à l'attention inquiète d'Albert. « Robin, dit-il, sa seigneurie vient de me jeter un coup d'œil qui ne me promet pas de grandes récompenses pour l'amitié que je vous porte. » « Non, en vérité, murmura sourdement Lord Fitzhalwin, et je n'oublierai pas ta traîtrise. » « Eh bien, mon cher Hall, répondit Robin, puisque votre séjour ici est devenu impossible, puisque notre présence au château est devenue inutile, allons-nous-en de compagnie. » « Attendez, ajouta Petit Jean, je crois rendre un très grand service à tout le comté en le débarrassant à jamais de l'impérieuse domination de ce Normand maudit. Je vais l'expédier à Satan. » Cette menace fit bondir le baron, qui, en un instant, se dressa sur ses maigres jambes. Hall et Robin allèrent fermer les portes. « Bon forestier, murmura le vieillard, honnête archer, mon cher petit Hall, ne vous montrez pas sans pitié. Je suis innocent du malheur qui est arrivé à vos amis. Ils ont attaqué mes hommes se sont défendus. N'est-ce pas bien naturel ? Les braves garçons tombés entre mes mains, au lieu d'être pendus comme ils le doivent, comme ils auraient dû s'y attendre, ont été épargnés et envoyés à Londres. Je ne savais pas que vous dussiez venir aujourd'hui me demander leur liberté. Si j'en avais été prévenu, bien certainement, les bons garçons n'auraient à l'heure présente plus rien à désirer. Réfléchissez, au lieu de vous mettre en colère, soyez des juges et non des bourreaux. Je vous jure de demander la grâce de vos amis. Je vous jure encore de pardonner à Albert l'indigne, la légèreté de sa conduite et de lui conserver la bonne place qu'il occupe près de moi. » Tout en parlant, le baron prêtait l'oreille au moindre bruit, espérant, mais en vain, un secours qui ne lui venait pas. « Baron Fitzhalwin, dit gravement Petit Jean, je dois agir selon les lois qui régissent nos forêts. Vous allez mourir. »«
Non, non !» sanglota sa seigneurie.
« Écoutez, je vous prie, sœur baron, je parle sans colère. Il y a 6 ans, vous avez fait brûler la maison de ce jeune homme. Sa mère a été tuée par un de vos soldats. Sur le corps de cette pauvre femme, nous avons juré de punir son meurtrier. »«
Ayez pitié de moi !» gémit le vieillard.
« Petit Jean, dit Robin, épargnez cet homme en faveur de l'angélique créature qui lui donne le nom de père. » « Milord, ajouta Robin en se tournant vers le baron, promettez-moi d'accorder à Alan Clair la main de celle qu'il aime et vous aurez la vie sauve. »«
Je vous le promets, sœur forestier. »«
Tiendrez-vous votre parole ?» demanda Petit Jean.
« Oui. »«
Laissez-le vivre, Jean. Le serment qu'il vient de vous faire est enregistré au ciel. S'il y manque, il vouera son âme à une damnation éternelle. »
« Je crois que c'est déjà fait, mon ami, répondit Jean, et je ne puis me résigner à lui voir accorder ainsi grâce entière. »
« Ne vous apercevez-vous donc pas qu'il est déjà à moitié mort de peur ?»«
Oui, oui, mais à peine serons-nous à 100 pas d'ici qu'il nous fera poursuivre par toute sa troupe. Il nous faut mettre un obstacle à ce dangereux dénouement. »
« Enfermons-le dans cette chambre, dit Hall. » Lord Fitzhalwin lança au jeune homme un regard chargé de haine.
« C'est cela, repartit Robin. Et les cris qu'il poussera une fois seul, et le tapage qu'il fera, y songez-vous ? »
« Alors, dit Robin, attachez-le sur un siège avec la bande de peau de cerf qui entoure votre ceinture et bâillonnez-le avec le manche de son propre poignard. » Petit Jean s'empara du baron, qui n'osa point se défendre, et le lia fortement au dossier du fauteuil. Cette précaution prise, les 3 jeunes gens gagnèrent en toute hâte la cour du pont-levis, et le gardien, qui était un ami de Hall, ne fit aucune difficulté pour le laisser passer. Tandis que nos amis se dirigeaient rapidement vers la demeure de Grace-May, Geoffroy, exaspéré par l'impatience, montait à l'appartement du baron. Arrivé devant la porte, il frappa d'abord un coup très léger. puis, ne recevant pas de réponse, il heurta plus fortement. Personne ne répondit. Effrayé de ce silence, Geoffroy appela le baron. Mais l'écho de sa propre voix lui répondit seul. Alors, à l'aide de sa puissante épaule, il enfonça la porte. La chambre était vide. Geoffroy parcourut les salles, les couloirs, les passages, les galeries, criant de toutes ses forces.
« Monseigneur, Monseigneur, où donc êtes-vous ? »
Enfin, après une longue recherche, Geoffroy eut le plaisir de se trouver en présence de son maître.
« Milord, Seigneur, qu'est-il arrivé ? » s'exclama Geoffroy tout en déliant le baron.
Celui-ci, pâle de rage, répondit d'un ton furieux.
« Faites lever le pont-levis, ne laissez sortir personne, fouillez le château, trouvez un grand coquin de forestier qui s'y cache. Liez-le, apportez-le-moi, faites pendre Hal. Allez donc, imbécile, mais allez donc !»
Le baron, épuisé de fatigue, se traîna vers sa chambre et Geoffroy, le cœur gonflé du séduisant espoir de s'emparer de Petit-Jean, alla donner les ordres multiples qu'il venait de recevoir. Une heure après, et tandis qu'on bouleversait le château pour y découvrir Petit-Jean, Hal, qui avait fait ses adieux à la jolie Grace May, traversait avec ses amis la forêt de Sherwood dans la direction de Gamwell.